Avec David Abiker.
Hilar, David. La rue de presse, c'est à la une l'arrivée de la loi immigration à l'Assemblée.
Elle fait la une des journaux nationaux, Guillaume. Pour le Figaro, le flou de la réforme portée par les ministres de l'Intérieur et du Travail attise les oppositions. Pour l'opinion, au contraire, la Macronie sur l'immigration assume une plus grande fermeté. La Croix, toujours pédagogique, résume l'enjeu du débat qui s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée en 5 questions. La France reçoit-elle beaucoup de migrants, plutôt? Qui accueillons-nous, les ressortissants de l'Empire colonial, l'ancien Empire colonial? Sommes-nous plus généreux que nos voisins? Oui. Avons-nous plus de 100 papiers que les autres? Non, mais nous ne savons pas les reconduire dans leur pays quand ils sont en situation irrégulière. Sait-on intégrer nos immigrés? Non, disent les comparaisons internationales. Quant aux éditos du jour, que disent-ils? Nicolas Bétou estime dans l'opinion que l'éternel équilibre entre fermeté et humanité de la France accouche d'un sentiment d'impuissance. Dans le Figaro, Vincent Trémollet de Villers estime que la majorité de l'opinion veut de la fermeté. Dans La Croix, au contraire, Jérôme Chapuis revendique conjointement et l'application des lois et le principe d'humanité.
Les Échos et Libération traitent le sujet sous l'angle économique.
Et ils ont raison. Puisque les migrants viennent chercher du travail que les Français ne veulent plus faire, autant régulariser plus facilement ceux qui ont un emploi stable.
C'est ce que réclame Thierry Marx.
Voilà ce que défendent les chefs d'entreprise dans les Échos. Vous y lirez qu'il existe certains dispositifs de régularisation qui facilitent les embauches dans les secteurs en tension. Mais, observe le journal, il est trop restreint pour être opérationnel. Parole d'employeur. Un comble. Aucun métier de la restauration n'est concerné par ce dispositif. Libération, lui, s'intéresse ce matin aux sous-traitants de l'État et interroge les travailleurs sans papier embauchés sur des chantiers avec des papiers parfois empruntés à d'autres ou qui ne sont tout simplement pas déclarés par des sous-traitants qui travaillent ou ont travaillé pour des géants de la construction intervenant où ça ? Sur des chantiers olympiques. Voilà qu'il affiche mal pour un pays qui prétend donner des leçons de gestion des travailleurs au Qatar. Moussa, bien conseillé par la CGT, explique à Libération. Nous sommes sans papier car la France ne veut pas nous régulariser, mais les JO ne pourraient pas se passer de nous. Page suivante, plus étonnant encore, est le cas de Mimi Tang, médecin vietnamienne, 41 ans, arrivée en France en 2015, disposant des équivalences nécessaires pour exercer la médecine. Elle enchaîne les remplacements dans les hôpitaux en tension. Elle est sous le coup de 3 obligations de quitter le territoire français. Cherchez l'erreur. L'erreur, elle est dans le débat stérile qui s'est engagé depuis des années entre humanité et fermeté et qui mérite de privilégier 2 notions supplémentaires, l'utilité des travailleurs étrangers et l'efficacité des textes qui permettent de les employer là où il le faut.
Un palmarès des arnaques à éviter avant de préparer le repas de Noël à déguster dans le Parisien aujourd'hui en France. Monsieur Abiker, c'est à vous.
Avec l'inflation, des marques redoublent d'inventivité pour attirer les clients et l'organisation Foodwatch, qui milite pour une alimentation saine, épingle une dizaine de produits. Je vous donne cette liste, comme ça vous serez prévenus pour le réveillon. Je commence par les entrées. Les œufs de lompe, Carrefour aux additifs. Les macarons Labéry au foie gras avec une pointe de nitrite. Ouais. Les petits sapins Blini à l'huile de palme. Je passe au plat de résistance. Les émincés de saumon fumé au champ avec 60% d'emballage vide, histoire de donner une impression de quantité. Le rôti maître coq annoncé au mori avec 0,9% de champignons dans la farce, ce qui ne fait pas très lourd. Le sachet Findus de pommes duchesse à la truffe avec 48% d'air dedans. Là encore, le paquet se fait plus gros que la pomme qu'il achète. Le flacon de fleurs de sel de Guérande, l'Arnaudy reconditionné façon Noël, est vendu 2,99€, soit 120€ le kilogramme, c'est 4 fois plus cher qu'un flacon normal. Pour le dessert, je ne vous propose pas la bûche Nestlé chocolat pleine de vide, 80% du volume, c'est de l'emballage. La boîte de Pyrénéens n'a pas changé, il y a juste dedans 6 chocolats en moins pour le même prix. Moralité, faites la cuisine.
Vous êtes un révolté du Bounty ce matin, vous êtes dingue, hein?
Oui, il faut cuisiner des...
Non, mais je plaisante, David.
Mais vous êtes un excellent cuisinier, mais vous avez fait des côtes de veau dingues une fois.
Mais on va parler de notre vie dans un peu de temps. Habiter à l'Élysée, en revanche, c'est d'un bon rapport qualité-prix.
L'Élysée, un logement de
Habiter
fonction...
Habiter est dingue.
Arrêtez, je peux pas faire mon travail, vous êtes trop goguenard. L'Élysée, donc, un logement de fonction à 2153€, c'est une petite info à la une de l'opinion. Sous la pression de l'Observatoire de l'éthique publique et l'autorité de la justice, après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs et après une décision du tribunal administratif, les bulletins de paie du président sont désormais publics. On connaissait le salaire présidentiel, 13 500€ avant retenue à la source, mais pas le loyer. Le loyer à l'Élysée constituait un avantage en nature déclaré par le président. 2153 euros pour habiter le palais, chaque mois évidemment. L'opinion a fait le calcul, si on estime le prix du mètre carré locatif dans le quartier à 35 euros, la somme payée par le président équivaut à un prix d'un appartement de 60 mètres carrés. L'Élysée, certains y verraient bien Jean Castex, dans Le Parisien, page 5. Certains lui prêtent sinon des ambitions, mais peut-être des arrière-pensées. Un ministre, qui le connaît bien, confie au journal « Je ne dirais pas qu'il y pense, je dirais encore moins qu'il n'y pense pas ». L'intéressé s'énerve quand on lui en parle. Elle n'y pense pas, de peur d'être déçue. Sophie Adnot, qui a rejoint le corps des astronautes français qui pourraient rejoindre la Station Spatiale Internationale, se confie au Parisien et ne veut pas penser qu'un jour elle marchera sur la Lune. Elle a peur d'être déçue et elle a cette phrase pleine de sagesse. Je ne crois pas que l'avenir de l'humanité est dans l'espace. Nous vivons tous ensemble sur le vaisseau spatial Terre, nous partageons un destin commun et nous avons tous la responsabilité de nous en occuper. Les astronautes qui voient la Terre d'en haut sont capables d'en mesurer la fragilité. Il faut garder les pieds sur Terre.
Merci mon cher David. Il est 8h38 dans le New York Times. Vous apprendrez que l'Ukraine a utilisé des drones pour frapper deux bases militaires russes. Mais tenez-vous bien, plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. C'est un article que je vous conseille de lire sur le site évidemment du New York Times, ce qui change un peu la perspective de la paix qu'on annonce étant donné l'agressivité et effectivement des soldats ukrainiens. Il est 8h39, nous avons rendez-vous avec Rachel Kahn et avec Hervé Gattegno. Deux sujets, la Covid ou le Covid comme vous voulez, et puis l'affaire Sarkozy qui rebondit en appel devant les tribunaux. Il est 8h39, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, toute la vérité, enfin presque.